You can,
Bien.
okay.
Olivier dit, propose de commencer. Bonjour à tous. Donc,
you want
nous
English
allons faire une conférence
okay,
sur l'après-WCIT.
Okay,
il s'agit d'un
moment.
Webinaire. Donc, il est 14h07 UTC. Je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de monde sur cet appel. Donc, la première chose que je vais faire, c'est donner la parole à Gisela qui va nous donner quelques informations. Gisela, vous avez la parole. Merci, Olivier. Je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons le système d'audio qui est connecté à la salle Adobe. Vos micros vont être en muet jusqu'à la fin de la conférence. Et je vais demander à tout le monde de donner votre nom lorsque vous prenez la parole pour la transcription, pour les interprètes aussi. Vous allez avoir une interprétation, service d'interprétation en français et en espagnol. Je vais aussi demander à tout le monde de parler lentement pour permettre aux interprètes de travailler correctement. Et toutes vos lignes vont être en muet, à l'exception des personnes qui vont prendre la parole pendant les présentations. Et nous ouvrirons les lignes à la fin de la conférence pour que vous puissiez poser vos questions. Si vous avez des questions à poser, commencez par les envoyer à travers le chat d'Adobe, comme ça nous pouvons les recevoir, et en précisant qu'il s'agit d'une question. Merci, dit Olivier. Cette session va être enregistrée et retranscrite aussi. Donc, bienvenue à tout le monde. Nous avons une session vraiment très intéressante ici aujourd'hui avec des renseignements, des informations sur la conférence de Dubaï, la conférence mondiale de télécommunication, le CMIT. Et nous allons avoir donc Nigel Hickson qui va prendre la parole, vice-président de l'Europe de ICANN et de la partie prenante mondiale, Bill Drake, président du NCUC, Avril Doria, membre de la délégation des États-Unis. Et elle représente aussi le WTSA, le WCIT, c'est-à-dire la partie de standardisation et donc la partie de la Conférence internationale des télécommunications. Donc nous lui souhaitons la bienvenue. Nous avons Andrés Piazza de l'ACNIC, qui est le représentant des affaires publiques de l'ACNIC, et moi-même, qui suis le président de ALAC. Et je travaille auprès de la délégation et de l'Angleterre. Ensuite, nous aurons les questions de la communauté. Une dizaine de minutes. Donc, on aura 10 minutes, peut-être un peu plus, selon le nombre de questions que nous aurons. Ensuite, nous verrons les défis et les opportunités pour AtLarge et pour ICANN. Bien, donc, sans plus, je vais maintenant donner la parole à Nigel Hickson, le vice-président de l'Europe. Nigel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour à tous. Et bonjour à tous, partout dans le monde où vous êtes. Et merci de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole. Je vais être très bref parce que je sais que beaucoup de gens veulent prendre la parole aussi. Et je sais que l'intéressant ici serait d'avoir une discussion. Donc, je vais d'abord parler un petit peu de ce que nous considérons comme les résultats du CMIT et un petit peu voir quels sont les défis qui nous attendent et les opportunités qui sont devant nous. Donc, d'abord, les résultats. Je pense que les personnes qui ont participé au CMIT et la partie des couvertures des médias étaient des fois pas très claires. J'ai entendu beaucoup de bêtises et en ligne et je pense que la couverture du CMIT était relativement positive, mais la couverture après la réunion était moins analytique et moins factuelle. Et ce n'était pas le début d'une guerre, ce n'était pas non plus, c'est pas vraiment un succès, c'est un processus qui a eu lieu. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont participé à différentes négociations. Je ne serais pas surpris de voir que ce qui est arrivé au CMIT au CMTI, pardon, je ne dis pas si c'était bon ou mauvais, c'est un processus qui n'a pas eu vraiment de succès pour une série de raisons. Il y a beaucoup de gens qui ont différentes perspectives là-dessus, mais je pense que c'est important de comprendre que ça n'a pas été un échec parce qu'il s'agissait d'un débat sur le soutien d'un Internet ouvert et libre, mais parce que certaines personnes veulent le faire, mais il y a un débat à ce niveau-là. Mais les résultats du CMTI étaient compliqués et je dirais que ça n'a pas marché au dernier moment. Et les personnes qui étaient là-bas peuvent le reconnaître, Olivier va le dire. Il n'y a pas eu une proposition qui a été faite pendant la dernière session concernant l'accès ouvert à Internet. C'était un des articles qui existait. En tout cas, quelque chose qui a été retiré des engagements et on a refait une proposition, c'est réapparu dans le préambule et apparemment les discussions après le CMTI vont engager une série de pays qui ont des positions différentes et qui n'ont pas voulu signer le traité. Et bien que la majorité des pays européens voulaient le signer à l'origine. Donc il y a une série de négociations qui dépendent de cet événement qui est relativement lent. Les résultats sont que le traité va être mis en œuvre le 1er janvier 2013. Le nouveau traité des régulations de télécommunications, ce traité aura un effet. Il aura un effet sur les législations internationales. Il aura un effet parce que son impact sur les différentes organisations de télécommunications internationales. Mais une fois que ce traité sera signé, et de par les résolutions, y compris la résolution 3, concernant l'Internet, ces résolutions donc vont être mises en œuvre. Et donc maintenant, voyons les défis du CMTI. Je pense que les défis sont très clairs. On peut dire que ces défis sont liés aux opportunités aussi. Ces défis sont d'aborder les soucis, les préoccupations qui ont été présentées pendant les négociations. Et à moins qu'on veuille mettre en place des lois sur l'Internet, il va falloir se mettre d'accord, il va falloir maintenir un Internet interactif, interopérable, et certains défis qui ont été présentés par les pays en développement doivent être abordés. Certains défis vont être abordés par la communauté Internet et par d'autres parties de la communauté internationale. Ces défis comprennent les problèmes de télécommunications de base, la sécurité des réseaux, l'accès aux réseaux, les larges bandes, ou le haut débit, ou des problèmes plus complexes concernant la sécurité des pays, sur ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit sur l'Internet, et d'autres problèmes qui sont plus difficiles à aborder, je dirais. Il est clair en tout cas qu'un des défis est la et mondialisation des réseaux, des questions dont on ne tient pas compte, dont on n'a pas tenu compte lors du CMTI, et les négociations peuvent être plus compliquées et lors du WTPF et lors des négociations qui auront lieu en 2014-2015. Et je pense qu'en 2014 aura lieu la réunion plénipotentielle de l'UIT et en 2015 aura lieu le NGA. Donc il y a beaucoup de défis dans le futur. Et pour finir ces petites réflexions, je voudrais vous dire que l'ouverture de certaines discussions lors du CMTI ont montré qu'il y avait des opportunités à aborder, des opportunités à saisir. Et venant des pays qui ont différentes vues et qui ne soutiennent pas, les pays qui ne soutiennent pas tous un Internet ouvert, les pays qui vont voter, qui vont signer ou qui ne vont pas signer certains traités, certains accords concernant l'approche multipartite. Beaucoup de pays pensent qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour garantir que la partie, l'aspect multipartite de l'Internet soit conservé. C'est très important. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Nigel. C'est Olivier qui reprend la parole. Merci pour pour ce résumé de ce qui a été dit lors du CMTI. Nous allons entendre tous les orateurs et s'il vous plaît, si vous avez des questions, gardez-les pour la suite. Donc, nous allons passer maintenant la parole à Bill Drake et à Vridolia, membre de la société civile de la délégation de des États-Unis. Peut-être que Avri pourrait prendre la parole. Avri, vous avez la parole.
Lorsque j'entendais parler de Nigel, je pensais tout de suite à la situation actuelle. Je ne sais pas très bien quoi dire. En fait, je ne suis pas d'accord. En fait, il y a plein de points de vue différents et je ne dirais pas que je refuse son point de vue, mais je dirais que je ne suis pas d'accord avec la plupart de ce qu'il a dit. En premier lieu, parce que le WCIT était un événement, dans une suite d'événements, à partir desquels un groupe élargi dans cet état actuel et dans la plénipotentiaire ont agi et ainsi de suite. Le Wicket a été un grand succès dû à la discussion sur la gouvernance Internet qui a ouvert notre panorama à plein de situations différentes. On peut voir les différents points de vue, on peut voir comment on doit continuer. On peut voir ce que les gens ressentent. Mais dans ce sens, pour rouvrir la discussion, je pense que ça a été un grand succès. En même temps, c'était un succès, une réussite, parce qu'en tant que société civile, on voulait réussir à passer le message du fait qu'on ne se sentait pas inclus du point de vue politique. On a reçu une réponse de l'UIT dans une note très diplomatique. On nous a remercié de notre intervention, d'avoir participé, mais en même temps, ils disaient qu'ils n'allaient rien modifier. Pardon, Avri, on ne t'entend pas bien. On voudrait savoir si on pourrait améliorer ton son, si tu pourrais parler plus proche du micro. Bien, je vais répéter ce que je viens de dire. Donc, pour ce qui est du traité, on avait dit que c'était conclu, que c'était fini et ce ne l'est pas. Il va être négocié, il va y avoir des personnes qui vont le signer. Il y a des gens qui vont le signer à un moment donné. Il y a plein de points sur ce traité qu'on ne devrait pas ignorer. C'est-à-dire qu'on traite le problème de l'accès pour les handicapés dans les pays en voie de développement. Il y a plein d'aspects qui sont importants, qui ne devraient pas être ignorés. Et j'espère que les pays qui ne l'ont pas signé peuvent suivre ces patrons. On a non seulement le WTPS dans le futur qui va traiter la gouvernance Internet, mais qui va exclure apparemment aussi la société civile. Il s'agit d'une discussion très importante à maintenir. On a peut-être dit que la gouvernance Internet était un sujet réglé du point de vue des WCIT et de WTSA, mais en fait, c'est un problème à traiter pour le WTPS. Pour la société civile, en même temps, on va organiser l'une des réunions les plus importantes pour créer un environnement qui nous permette d'y accéder, de participer. Comme j'ai dit, en fait, pour moi, ce sujet n'est pas conclu. Le WCIT n'était qu'une étape et ce n'était qu'une discussion où les deux parties ont perdu un peu et ont aussi défendu leur point de vue. Et je pense que c'est ainsi qu'on devrait le considérer. Ce n'est pas à considérer du point de vue comme si on avait perdu et les autres avaient gagné. En fait, il s'agit d'un processus continu entre deux points de vue mondiaux très compréhensibles. Je pense qu'on devrait considérer en même temps la discussion de cette guerre froide d'Internet. Il faut qu'on se souvienne de ce qu'était la guerre froide. C'est ce que l'on fait lorsqu'on ne se bat pas directement. Dans cette dispute, disons, d'Internet, on est en train de traverser une sorte de guerre froide. Et je pense que c'est une certitude qu'on devrait craindre. Je ne pense pas que ça va nous mener à une guerre certaine ou à une guerre directe. Ce n'est pas une guerre froide, mais c'est une discussion politique entre deux points de vue différents. J'en ai parlé avec l'ITOC et avec des personnes qui étaient convaincues du fait qu'on devait défendre l'Internet multipartite, au moins dans la pratique. Mais j'aurais aimé que ICANN soit là. Mais ICANN a trouvé une façon de participer. Bien qu'il soit été bien qu'il le trouve, qu'il trouve une façon de participer à notre délégation. Ça a encouragé l'ITOC à parler et à donner un très bon discours. Mais le fait de ne pas appartenir au gouvernement atteint la société civile. Donc il faut qu'on trouve une façon de travailler avec la société civile pour essayer de la faire plus ouverte, ce que serait un nouveau développement. C'est à peu près ce que je pense. Merci. Merci beaucoup, Avery. Ici Olivier Crépin-Leblond. Tu mentionnes d'autres points de vue et d'autres angles par rapport au WCIT. Tu parles d'une guerre froide qui ne l'est pas en fait, et tu mentionnes le fait qu'il s'agit d'un processus continu. Je pense qu'on pourrait maintenant passer à notre participant suivant, c'est Andrés Piazza, l'officier d'affaires publiques de l'ACNIC. Andrés, tu as la parole.
Merci, Olivier. Bonjour, ici à Montevideo, c'est l'après-midi, donc bonsoir. Hein. Et c'est un plaisir pour moi de participer à cette rencontre organisée par la communauté d'ICANN at large. Et je me sens vraiment chez moi à l'large de ICANN. Je me rends compte que ça fait plus de 5 ans que je participe à ces réunions. Et je sens vraiment que je représente un registre et que je suis j'appartiens à la communauté, disons. Donc c'est un plaisir d'être ici. Maintenant, une fois
Cela dit, je dirais que c'est bien aussi, et Nigel l'a dit, Avril l'a dit, et ils l'ont dit avant moi, la plupart des choses qui ont été dites par ces deux personnes, j'aurais voulu les dire, donc je dois dire que, bon, je ne vais pas le répéter, donc je suis d'accord avec eux, personnellement. Je vais donner mon opinion. C'est une situation un petit peu inconfortable, ce que j'ai vu pendant la réunion de CMTI, certaines phrases, certains messages et concernant les résultats du CMTI. Hein, nous avons suivi ce processus de près et moi j'étais aux réunions du CMTI. Et je pense que c'était compliqué, très intéressant. Et la plupart des activistes d'Internet étaient présents, ils ont participé à cette réunion. Et je dirais qu'il ne s'agit pas d'une guerre froide du tout. Et que cette analyse n'est pas vraiment correct, en tout cas dans la région de l'Amérique latine que je représente, ce n'est pas le cas. Je pense que ça ne représente pas vraiment le scénario que nous avons ici. Ce n'est pas un scénario de guerre froide, parce que la région de l'Amérique latine et l'ensemble des Amériques, avec les États-Unis, le Canada, les Caraïbes, hein, qui appartiennent donc à la région des Amériques. Et ils ont participé donc au CMTI, il y avait différentes propositions faites par eux. Et nous avons eu une année de préparation, il y a eu 3 réunions pour préparer le CMTI. Un an avant, avec les Amériques, les Caraïbes, et dans ce processus de préparation, il n'y a pas eu de proposition de notre région et qui pouvait représenter ce modèle multipartite. Et je dirais que certains des pays d'Amérique latine n'ont pas signé le traité et leur ministre les a autorisés à signer le traité dans certains cas, mais on ne sait pas si ils vont continuer à signer ces traités dans le futur. Donc, ces traités, nous ne sommes pas sûrs que ces traités vont maintenir le modèle multipartite d'Internet. Et en tout cas, dans ma région, je pense qu'il y a eu un manque de compréhension concernant le modèle multipartite et la philosophie qui est derrière, la façon dont ICANN et les autres organisations gèrent l'Internet actuellement, l'ICANN, ITF et d'autres organisations, et CCTLD, etc. Donc, il y a une compréhension, on comprend ce modèle multipartite, mais on considère aussi que ce traité doit être bon pour eux aussi. Donc nous devons continuer à avancer et sur cette scène polarisée, nous devons parvenir à ce traité. Je pense que ce traité est bon, il y a beaucoup de questions qui sont abordées hein, et dans ce traité. Et je dirais aussi que il y a des préoccupations concernant 2 articles, l'un sur la sécurité et l'autre sur des communications qui pourraient se rapporter, ce n'est pas clair, mais pourraient se rapporter au problème des spams, des pourriels. Il n'est pas clair. Si la définition des télécommunications, parce que quand on lit cet article, on ne sait pas si on parle de spam ou pas, donc ce manque de clarté est grave. Et un autre point que je voudrais souligner et concerne l'ouverture et la transparence du processus. Il y a eu beaucoup de discussions avant la réunion du CMPI, à savoir si cette, comment serait organisée cette réunion, s'il s'agirait de discussions fermées, et finalement le futur de, des télécommunications serait discuté dans des, et dans des conférences et qui allaient être fermées au public. Il fallait accepter que le CMTI était en pleine progression, appartenait à un environnement multilatéral. Et cela a été dit, je le pense aussi, je n'ai jamais vu auparavant, dans toute l'histoire, une conférence, un traité qui a été aussi ouvert. Une conférence multipartite et un traité aussi ouvert. Je pense que c'est un phénomène et qui est important au niveau de la discussion concernant l'Internet et la façon dont nous allons développer notre politique. Cette transparence et cette ouverture est importante et nous avons vu cela pour les principales sessions, mais aussi pour toute la diffusion qui a eu lieu autour de la conférence et l'intérêt que cela a créé. Mais ça ne suffit pas pour nous, parce que les standards d'Internet sont beaucoup plus importants concernant l'ouverture et la transparence. Donc il faut continuer à lutter pour ce type de conférence gouvernementale et pour qu'elle soit encore plus ouverte, encore plus transparente par rapport aux sessions préalables. Parce que nous avons eu un bon résultat pour ce CMTI, mais je pense qu'il est important pour notre communauté de tenir compte des défis qui existent dans le futur et de connaître ces défis. Et je pense que il est important de savoir que on a abordé des discussions au cours de cette réunion, des discussions, et que les résultats de ces conférences, et partie des résultats de cette conférence était la possibilité de créer un nouveau système d'ITU, la discussion. Et ces discussions sont intéressantes. Et nous, en ce qui concerne l'ouverture et la transparence, je dirais que d'accord, il y a eu un gros progrès, c'est bien, mais ça ne suffit pas encore comparé à nos standards et dans nos communautés. Donc je pense qu'il faut en tenir compte, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup.
Merci Andrés. C'est Olivier qui parle, c'est très, très intéressant d'entendre parler de l'UIT et de ces discussions multilatérales qui ont été initiées, mais aussi du modèle de multiples parties prenantes, ce qui est toujours en processus. Et il faut bien sûr tenir compte du fait que l'Internet est multipartite. Les questions vont venir à la fin des présentations de nos orateurs. On a maintenant Bill Drake, c'est le président de l'NCUC et membre de la délégation des États-Unis. Bill, vous avez la parole. Merci, Bill, oui, je vous entends. Bonjour à tous. Et je voudrais parler pendant 5 minutes des WCIT, des ITR. Ce sont des sujets que je discute en plus de temps d'habitude, donc pour moi c'est difficile de souligner les points les plus importants, mais je vais essayer de le faire. À mon avis, le premier point devrait être le fait qu'il s'agit d'un premier pas dans un long processus, mais je dirais que mon point de vue est plus large. Je suis une personne qui a beaucoup lu sur l'UIT. J'ai beaucoup écrit sur l'histoire internationale des télécommunications. Donc pour moi, cette trajectoire commence en 1950. Ça commence avec le traité de Dresden, qui a créé l'organisation des télégraphes de l'Autriche et l'Allemagne. Et ce traité, en fait, avait les mêmes sensations que les ITR aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait deux points très importants. En fait, il s'agit d'argent, puisque les ITR, à un certain niveau, portent sur l'argent, et le traité des télécommunications internationales compte créer un système international pour maintenir des échanges sur les lignes de téléphone ou de télécommunications, de radio. On applique des formules et les opérateurs de télécommunications se compensent entre eux. C'était le régime international des télécommunications qui a été instauré en 1950 et c'était en quelque sorte la colle politique qui maintenait ce système. Et chaque genre d'opérateur international trouvait qu'ils avaient un bénéfice dans ce traité. Dans ces dernières deux décennies, je dirais, ils ont trouvé que leur situation changeait. Ils essayaient de récupérer tout cet espace qu'ils avaient perdu. Parce que les pays, en fait, ont senti un coût financier à partir de la crise, grâce aux accords de télécommunications internationaux. Les États-Unis ont essayé de créer un traité qui fonctionne en quelque sorte comme cadre pour ces télécommunications. On essaie de compenser l'économie de tous ces participants pour assurer leurs droits internationaux et pour appliquer en quelque sorte ce genre d'approche aux télécommunications. Et par conséquent, à l'Internet. C'est très clair comme proposition. Et on a vu plein de propositions qui ont eu beaucoup d'influence. On a vu des pays africains, arabes et d'autres aussi, bien sûr, qui se sont ajoutés à ces négociations. Le grand problème est comment on divise l'argent au niveau global. Et donc, le problème est le WCIT. Il y a des pays qui participaient à ces négociations auparavant et qui ne sont toujours pas satisfaits et qui luttent et se battent pour pouvoir couvrir tous leurs coûts et assurer leurs services. D'autre part, ce modèle de 1950 que j'ai souligné tout à l'heure est le fait que tout doit être décidé par consensus. Et c'est la clé du fait de fournir des services. Si les opérateurs internationaux prenaient des mesures et communiquaient entre eux, ils travailleraient de façon collaborative. C'est un droit naturel des États souverains de pouvoir s'attendre à avoir de la clarté et de la certitude dans leurs relations avec les autres pays. Dans ces dernières 20 années, avec la libéralisation, les télécommunications ne se sont pas organisées selon le consensus. On cherche à trouver la façon de fournir des communications dans les pays, des télécommunications internationales qui n'ont pas été accordées par l'opérateur qui reçoit l'appel, que ce soit des services d'appel inverse, ou n'importe quelle approche que ce soit. C'était un problème très important parce que beaucoup de pays, tels que les États-Unis et des pays en voie de développement, sentent toujours que les participants les plus importants agissent selon leurs propres intérêts et ignorent ceux des pays non développés. C'est ça un grand problème que l'on a. Et puis, pour ce qui est de l'UIT, je dirais qu'ils ont mal agi, ils ne sont pas dans une bonne position. Et ça se voit dans leur secrétaire, dans la personne qui met en œuvre leur régulation. Et ça se voit, ils disent qu'ils sont un organisme du bas vers le haut, de représentation des membres, mais ça a un impact négatif. Et la perception de beaucoup d'acteurs n'est pas telle qu'elle devrait être. Et l'UIT a été atteint par ce problème. Il y a un problème qui n'a toujours pas été résolu et qu'il faut que l'on aborde sur les télécommunications, sur Internet, avec leur convergence avec les réseaux. Et pour beaucoup, pour la plupart des opérateurs, on doit toujours définir où commence le rôle de l'un et où il finit. On doit voir comment Internet s'associe aux règles. Je pense que si on le considère et si on voit comment mettre en œuvre les dispositions, on voit qu'on a du mal à le faire. Même les articles ne parlent pas d'Internet. Et les communications massives d'Internet sont incluses dans ce point-là. Et c'est le cas pour plein de dispositions. Les gens disent, le mot Internet n'est pas sur le texte, donc pourquoi est-ce qu'ils se plaignent ? Mais en fait, les personnes qui ont participé et qui ont suivi l'histoire législative ont bien compris que c'était l'intention des partis qui ont rédigé le texte, de ne pas mentionner le mot Internet pour que ce ne soit pas clair. Donc, comment est-ce qu'on peut avancer? C'est une question très intéressante. L'impact de tout cela pourrait varier à mesure que les différents pays commencent à respecter les différentes règles qui modifient leurs relations entre eux, telles que la Russie, les pays arabes, et l'interprétation et la mise en œuvre mondiale de ces règles. On a 55 pays qui ne l'ont pas signé, donc c'est un fait à tenir en compte. En mai, on aura la conférence où on traitera ces sujets, le résultat et plein de textes.
Que fue erradicado por la UIT. Y es necesario prestar atención a esto, particularmente a las opiniones que se dijeron que tienen que ver con el hecho de establecer a la UIT como un vehículo de unión. Y eso ha sido parte de la opinión del UIT que se llevó a cabo en la sociedad civil ha participado ampliamente y que muchas personas van a tomar en cuenta las decisiones de la UIT. Voy a detenerme así con mi presentación. Habla Olivier, muchas gracias por este punto de vista adicional y por este aspecto histórico, por este aspecto histórico que nos hace cerrar a la actualidad. Lo que vamos a hacer ahora seguir discutiendo una observación sobre lo que ha sido dicho auparavant por los otros orateurs, par le représentant de la délégation. Je suis le représentant de la délégation de l'Angleterre. Et donc, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ce qui s'est passé, ce que j'ai vu. D'abord, dans la conférence
de la couverture de los medios.
Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je ne suis pas si d'accord avec lui. La façon dont le processus était un processus très divisé. Donc les plénières étaient ouvertes à tout le monde.
Et comme vous savez,
analyser point par point et
el presidente de la
Le président de la conférence a analysé cela ligne par ligne. Et dès qu'il y avait des points compliqués, il montrait qu'il y avait des désaccords. Et on travaillait au niveau de groupe de travail pour résoudre ces problèmes. 5-6 groupes de travail ont été organisés pour aborder les points les plus difficiles, les plus contentieux. Ensuite, les groupes de travail se sont réunis dans des salles, dans différentes salles, et il y avait un autre président qui et regarder un petit peu, voir quels étaient les articles sur lesquels on n'était pas d'accord, voir si on pouvait résoudre cela. C'était envoyé à un autre groupe de travail. Il y a eu des groupes de travail informels qui ont travaillé sur ces questions. Et cela, ils ne pouvaient travailler qu'avec le gouvernement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le véritable travail, les véritables discussions avaient lieu à ces endroits-là. Et des fois, c'était des discussions très chaudes, je dirais. Hein. On pensait qu'au moment où les gens quittaient la salle, tous les problèmes avaient été résolus et qu'on pouvait reprendre les discussions au niveau de la plénière. Dans certains cas, il n'y avait pas d'accord. On ne parvenait à aucun accord. À la fin de l'année, ça revenait à la plénière. Et c'est comme ça que la situation est devenue de plus en plus tendue au fur et à mesure que le temps passait, parce qu'il n'y avait pas eu de consensus à l'extérieur de la salle de réunion dans ces petits groupes de travail. Vu donc ce problème, ces petits groupes de travail sont arrivés à un tel blocage que le président a décidé qu'il y aurait des réunions de différentes régions. Les différentes régions, il y a plusieurs régions pour l'UIT, donc la région de l'Asie Pacifique, ensuite il y a
la Union de las Telecomunicaciones de África, por ejemplo.
Certaines régions qui étaient les plus actives, par exemple la conférence européenne de communication. Il y a eu une autre organisation qui a été mentionnée par André Piazza. Il y a eu la position arabe aussi et l'ITC et qui regroupe les pays de la Russie et les pays satellites. Donc, il y avait d'autres pays qui n'appartenaient pas à une région spécifique. Et donc, lorsque l'on a commencé à travailler sur ces articles qui étaient les plus disputés, où il y avait les plus de conflits, à plusieurs reprises, le président de la conférence a demandé une réunion à huis clos et plusieurs collègues de chacune de ces régions participaient à ces réunions. Les commentaires que j'ai reçus d'après les discussions qui ont eu lieu, hein, à huis clos donc, étaient des discussions et que la plupart des délégués, au cours desquels la plupart des délégués ont fait pression sur le président pour maintenir leur position. Donc ces discussions étaient très conflictuelles, je dirais. Hein. Et ce qu'on m'a dit, c'est que il y a eu certains blocages parce que 25 personnes, c'était une discussion de 25 personnes. Il faut se rappeler qu'il y avait 1500 personnes qui étaient présentes à la conférence et 25 personnes qui vont négocier à huis clos sur des points donc et qui portaient problème. Hein, et beaucoup de gens ne voulaient pas avancer sans consulter leur gouvernement, sans consulter leurs équipes. Donc on a vraiment conclu sur un blocage général. Les principaux points difficiles, je voudrais dire qu'il y a 20 articles dans cette réglementation. Il y a seulement quelques articles qui étaient très très problématiques. Le premier concernait les droits de l'homme, qui était un point à l'origine, ça avait été proposé comme premier article. Ensuite, on a proposé que ce soit le préambule du traité et c'est ce qui a donné vraiment
le problème de la conférence. Lorsque certains États ont voulu ajouter, mentionner le réseau de télécommunications, Cuba a demandé que cela figure dans un article. Ensuite, il y a eu un refus. Et ça n'a pas été accepté à la dernière minute. On a essayé de faire passer cela dans le préambule. Et ensuite, l'article 1.1 sur l'utilisation des télécommunications, de ITT, qui est un point difficile. Il s'agit de la technologie d'information et de télécommunications. Et donc, tout ce qui concerne l'éthique, les télécommunications, et donc il y a eu un certain consensus pour remplacer toutes les questions qui concernaient les télécommunications et les ITT. Et l'ITT. Et l'éthique. Les organisations reconnues appartenaient à l'ITR. Il y a eu une définition spécifique du rôle de l'UIT qui comprenait beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'organisations que ce qui pourrait entrer dans ces régulations, dans ces réglementations. C'était opposé à la position européenne et américaine et d'autres pays aussi, parce que cela allait provoquer des problèmes au niveau des fournisseurs de services, des réseaux, Internet. Et donc, cela pouvait aussi inclure et vous-même qui travaillez chez vous sur votre propre réseau. Donc, heureusement, il y a eu un consensus sur ce point pour autoriser les agences qui opèrent et voir qu'est-ce que c'était que ces opérateurs, ces agences qui opéraient. Essayer de conserver ce terme de agence qui opérait, hein, qui n'était pas possible d'être conservé dans le cas de la Russie où il y avait beaucoup d'opérateurs différents et de commissions différentes. Certaines sont reconnues, d'autres non. Et donc il fallait utiliser un autre terme dans le cas de la Russie. Et ensuite, il y a eu l'article 3.8, la gestion de l'Internet et de ses ressources. Et dans la proposition finale, il y a eu un certain drame, je dirais, pendant le week-end de ces deux semaines lorsque l'article a été proposé par la Russie, qui a laissé de côté, d'une certaine façon, pendant le week-end, les autres groupes. Et les autres groupes qui ont dit qu'on allait le réintroduire. Ensuite, ils se sont disputés pendant le week-end. Ils ont dit qu'on allait remettre lundi. Ensuite, quelques jours plus tard, il y a eu de nouveau, ça a été repris. Ensuite, la Russie a voulu conserver cet article, la gestion des ressources de l'Internet, et qui concerne la gestion d'Internet. Et cela a plané en permanence autour des discussions. Si on regarde les autres articles, on revient à celui-là et on peut demander que ces quatre articles soient inclus. Ensuite, ça a été dit par mes collègues, l'article 5.8 sur la sécurité, 5A sur la sécurité, 5B sur la télécommunication. Cet article en deux morceaux reste l'article sur l'ITR, et c'était un des problèmes principaux pour la plupart des pays européens, et je dirais aussi pour l'Amérique du Nord et beaucoup d'autres pays aussi. Certains pays européens pensaient qu'il y avait certaines rédactions ajoutées qui étaient nécessaires, la question de la sécurité pour être acceptable, mais la partie concernant la communication était plutôt bizarre, parce que il était dit que le problème était les spams, et je ne suis pas sûre. Je pense que beaucoup de gens n'étaient pas très sûrs que si la meilleure façon de détecter les spams était de lire le message en lui-même, c'est ce que disait le texte du traité. Donc on ne peut pas savoir si une communication est demandée ou pas tant qu'on ne la lit pas. Hein. Donc, cela accompagne une
réglementation récente concernant les actions à mettre en œuvre dans le futur, pour les réseaux futurs qui ouvrent la possibilité d'avoir un réseau futur, Internet ou autre, qui soit contrôlé par les États, qui soit payé par les États et non pas par les organisations, et qui s'occupe de la sécurité sur les réseaux. Donc, il fallait que les gouvernements s'en occupent. Selon l'article 6, il s'agissait de... Beaucoup de discussions ont porté sur la comptabilité, sur le fait de payer. Beaucoup de ces articles, en tout cas, celui que je n'ai pas mentionné ici, a été accepté facilement et il a fait preuve d'un consensus. L'article 6 a mis un certain temps à être discuté parce que et le fait de payer la comptabilité a été proposé. On a proposé un système pour que ce soit celui qui envoie qui paye. Ça a été, si c'était le cas, ça n'était pas lié au contenu. Alors, si ça me, comment faire si ça ne concernait pas le contenu? Bon, enfin, on est arrivé à un consensus finalement. Et je dirais que la partie la plus difficile, la partie la plus conflictuelle, le moment où l'état d'âme de la réunion a changé, c'est lorsque une résolution a été présentée pour limiter la croissance de l'Internet et devait être présentée, pour ceux qui n'étaient pas un vote techniquement parlant, et il n'y avait pas eu de discussion concernant cette résolution et beaucoup de pays. Et des pays qui n'avaient pas participé aux réunions de européennes et n'étaient pas satisfaits des discussions qui avaient lieu sur cette résolution, qui ne comprenaient pas l'opinion et le système de l'Internet multipartie prenante comme ICANN, l'UITF, l'IETF, etc. Donc, les choses qui auraient dû être discutées auparavant et dont on n'avait pas parlé et qui étaient ici présentées à travers un processus vraiment confus. Je dirais qu'il y a eu une série de points sur lesquels les pays n'étaient pas satisfaits. Et je pense que certains pays ont signé avec beaucoup de réserves concernant les articles qui n'étaient pas acceptables pour eux et les résolutions qui n'étaient pas non plus acceptables pour eux. Cependant, le point important, et je dirais, était une réunion qui a été très tendue. Et l'Union européenne a formé un bloc et les discussions en huis clos au niveau de l'Union européenne étaient très soutenues. Il y a eu une série d'opinions qui ont été présentées. On a, concernant la plupart des articles sur lesquels ils étaient d'accord, mais lors de la dernière session, il est clair que une série de pays et concernait les droits de l'homme. Et il faut se souvenir que certains pays ont perdu leur accès à cause de problèmes liés aux droits de l'homme. Donc il était clair que un accord concernant les droits de l'homme était important. Et je ne veux pas dire qu'il ne peut pas y avoir ou qu'il n'y a pas de pays européens qui vont signer ce traité dans le futur. Je sais que l'Union européenne va se réunir et je vais faire un suivi sur cette réunion, mais pour le moment je dirais qu'il est clair
que, en tout cas, je n'ai pas entendu parler de mouvement dans cette direction. Parce que c'est un problème. Le problème principal aujourd'hui est que personne ne sait ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Le président Touré, qui était le président de l'UIT, a dit que il y allait avoir qu'on risquait un échec. Si on votait sur l'IDN, on risquait un échec. Et donc, les membres, on ne sait pas vraiment dans quelle direction on va. Parce que si la moitié ou même les deux tiers des pays ratifient quelque chose et qu'une partie n'est pas d'accord, ça veut dire qu'un tiers va encore dépendre de ces réglementations ou pas. C'est une grande question qu'on peut se poser. Je ne suis pas sûre quelle est la réponse. Je pense que personne ne sait quelle est la réponse. Ce qui est clair, c'est que nous avons deux blocs. Et je regrette de devoir le dire, mais d'un côté, les pays occidentaux suivent un programme de libéralisation qui a été suivi depuis longtemps déjà, et l'Internet est un exemple de la libéralisation des marchés. Et d'un autre côté, les pays du reste du monde sont beaucoup plus conservatifs, ils veulent davantage de contrôle, et ils ont le droit d'avoir le modèle qu'ils veulent. Mais ces deux modèles ont des problèmes pour cohabiter. Bien. Certains points ont demandé beaucoup moins de temps que ce qui aurait été nécessaire. Mais maintenant, et il nous reste encore un petit peu de temps avant de finir notre réunion, je voudrais passer à la question suivante. Comment est-ce que nous allons faire cela, Gisela? Est-ce que nous allons répondre aux questions qui ont été envoyées par écrit? Est-ce qu'on va permettre aux gens de prendre la parole et de répondre aux questions? Il nous reste encore une demi-heure de réunion. Comment est-ce que nous allons nous organiser? J'entends personne, je n'entends la réponse de personne. Olivier, c'est moi, Heidi, qui te répond. J'avais peur de ne pas avoir été connectée. Bon, Heidi dit que nous avons beaucoup de questions. Nous avons reçu beaucoup de questions dans le chat. Nous pouvons poser les questions à travers la page Wiki. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire de deux façons. Ou bien vous écrivez vos questions dans le chat, ou vous levez la main, hein, et vous voyez sur votre écran, en haut de l'écran à gauche, il y a une petite personne. Vous pouvez lever la main et à ce moment-là, nous allons faire organiser une queue de personnes qui veulent poser des questions. Rappelez-vous qu'il y a eu plusieurs questions. Je sais qu'il y a eu une question posée à Avery qui lui demandait de parler un petit peu plus du WCIT. Avery, oui, Avery prend la parole.
J'espère que la discussion sur le WTSA prendrait beaucoup plus de temps que cet appel, mais ça portait sur la normalisation, la standardisation que l'on allait faire. Les groupes continueraient, bien sûr, mais on voudrait savoir quelles seraient les modifications que l'on verrait de la part des présidents de ces groupes. Dans les prochaines deux semaines, nous allons considérer les problèmes techniques. L'un des problèmes qui s'est posé était la demande pour commencer à travailler sur la création d'un registre de l'UIT. Ceci n'a pas été accepté. Et Alan et l'IRR ont répondu de la part de la délégation internationale. Ils ont répondu de façon définitive. La délégation des États-Unis a participé à cette réponse aussi. Et je ne pense pas que c'était bien fait. Les médias et le registre que l'on voulait créer pourraient peut-être nous aider avec l'IPv4 et des versions préalables et avec les adresses IP, bien sûr. On a toujours à voir ce qu'ils vont faire à partir de ce sujet, mais on a plein de problèmes techniques et ça devrait être l'UIT qui décide si cette inspection, ce paquet d'inspection que l'on demande et que l'on discute depuis des années devrait être mis en œuvre ou pas. L'UIT se réunit de façon périodique, je pense que c'est tous les 4 ans, sur le travail technique, pour discuter ce travail technique de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils vont faire dans le prochain cycle. Merci à Brice, c'est Olivier qui parle. Je vois que Tijani a levé la main, Tijani Benjamin dit qu'il s'est déconnecté, donc nous avons maintenant Gideon de .connect Africa. Non, dit Tijani, pardon Olivier, je suis de retour. Pardon, on passera donc la parole à Gideon et puis à toi, dit Olivier. Bien. Est-ce qu'on entend Gideon? Peut-être qu'il est en muet. Bien, pendant qu'on attend jusqu'à ce que Gideon puisse être entendu, nous allons entendre Tijani. Et on va voir si quelqu'un peut aider Gideon à se connecter. Tijani, vas-y. Bien, merci Olivier, c'est Tijani qui prend la parole. Je voulais simplement dire que je suis très content d'avoir entendu ces présentations sur politique et ces présentations qui sont constructives pour notre avenir. Je pense, Avri, que ICANN doit participer dans l'avenir à toutes ces réunions et qui devrait participer en tant que délégation complète, comme le font d'autres organisations. Donc, ICANN devrait essayer d'avoir ce statut de délégation complète pour pouvoir prendre la parole, se faire entendre. Je proposerai donc que la délégation soit constituée par tous les regroupements d'ICANN pour que ce vote d'ICANN soit entendu. Je pense que le résultat des WCIT n'est pas aussi mauvais qu'on le croit. Comme vous avez expliqué, il faut qu'on travaille davantage pour que ce modèle multipartite fonctionne partout. Donc on a 2 actions à suivre. D'une part, de faire du lobby avec l'ONU. C'est le problème du modèle multipartite et qu'il ne s'agit pas d'un problème de l'UIT, c'est un problème de l'ONU. Donc on va continuer de défendre au sein de l'ONU, auprès de l'ONU, notre modèle multipartite et de notre besoin de le faire fonctionner, et du fait qu'on a d'autres besoins aussi en tant qu'ICANN pour avoir une délégation auprès de l'UIT pour pouvoir prendre la parole, pour négocier, et cette délégation doit être formée par tous les regroupements. Merci. Merci, Tijani, dit Olivier, Nigel Hickson. Merci beaucoup, Olivier. C'est Nigel qui parle. Je voulais simplement répondre à Tijani, à qui je remercie cette intervention. La participation d'ICANN dans le WCIT se fait à 2 niveaux, comme vous savez. D'une part, Fadi Chehadeh a parlé de cette invitation de l'UIT. Elle a dit qu'il allait suivre ces négociations et puis grâce à la réception qu'on a vue par la délégation de ce secteur, on a Mikowski que vous connaissez déjà qui a fait partie de la délégation qui était présente. Donc les membres d'ISOC, de APENIC, etc., voulaient participer. participer aussi, bien sûr, et pouvaient le faire à travers cette délégation. Le collègue et membre de la communauté ICANN seront présents à Beijing. Et c'est un problème que l'on est en train de discuter. Donc les membres pourraient bien sûr être représentés par notre délégation s'ils ne peuvent pas prendre la parole eux-mêmes. Et les membres de ICANN qui participent à l'UIT ont pris la parole pour nous. J'espère que ceci pourra s'améliorer dans l'avenir. Et je voulais aussi parler d'autres points que j'ai entendus dans cette conversation. Lorsque j'ai dit que le WCIT était un échec, j'étais d'accord avec Avril, ce n'était pas que ça allait échouer, certainement. Mais la capacité de cette force multipartite, le ISOC, DICAN, JRR et d'autres participants devaient être conjointes pour pouvoir atteindre un consensus. Et Avril a été essentiel dans ce processus de coordination, bien sûr. Donc je ne disais pas que c'était forcément un échec, mais que c'était une incertitude. Merci beaucoup. Merci Nigel, dit Olivier. On a maintenant une question de Victor Donan. Il dit, pendant la séance de clôture du WCIT 2012, j'espérais pouvoir participer et j'espérais que ICANN pourrait travailler ensemble avec l'UIT dans l'esprit de la collaboration. Donc l'UIT ne désire pas de jouer un rôle dans les ressources Internet physiques en tant que les noms de domaine. Et le travail d'ICANN et de l'UIT devrait être complémentaire, devrait se compléter entre eux. Et il cite, en d'autres mots, apparemment, le WCIT 12 a porté sur le fait que l'UIT contrôle Internet, mais ne contrôle pas sur le fait que l'UIT contrôle le travail d'ICANN. Est-ce qu'il s'agit d'un résultat très diplomatique de l'équipe de direction d'ICANN ou un résultat d'un accord secret entre l'UIT et ICANN? Est-ce que les membres du panel pourraient, s'il vous plaît, partager leur point de vue là-dessus? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Nigel qui prend la parole. On va voir s'il peut commenter sur cet accord secret. Bien, c'est Nigel Hickson qui parle. En fait, c'est Bill Drake qui parle en ce moment. Dans l'industrie des noms de domaine, on a vu une grande lutte. Tout le monde voulait les contrôler. C'était un énorme pouvoir. On aurait voulu avoir un rôle plus important là-dessus, mais on n'a pas eu cette possibilité. Donc, on essaie d'explorer d'autres aspects. Et on a beaucoup travaillé dans plusieurs aspects très différents dans cette négociation. Et on a vu qu'on aurait la possibilité réelle de devoir passer la fonction d'ICANN à l'UIT. Les Russes l'ont commenté, ils n'étaient pas d'accord, ils étaient pour, ils n'étaient pas pour. Et principalement, on discutait le rôle des registres globaux, mais je pense qu'en réalité, ce n'est pas très probable. Et qui se centre en fait sur d'autres aspects d'Internet. Merci Bill. Nigel, s'il te plaît, dit Olivier. Oui, merci, dit Nigel. Et je veux être brève. En fait, lors de l'IGF à Bakou, ICANN et l'ISOC et l'UIT avaient accordé de se réunir. Et Fadi Chehadeh à participer. Et c'était une très bonne réunion. L'IGF avait invité l'UIT et ICANN à se joindre au WCIT. Et c'était une invitation qui n'était pas simple ni légère, en fait. Certains pays et certains membres de la communauté d'ICANN et l'UIT n'était pas l'organisme approprié pour traiter ce problème, il disait. Il voulait discuter des aspects. Et Fadi Shehadeh a essayé de traiter ou d'aborder cette question. Il n'y avait pas d'accord secret, en tout cas. C'était très clair, très ouvert. Tout le monde comprenait le fait que l'UIT n'avait pas de différence avec ICANN sur ce point-là et qu'ils n'avaient pas de ressources différentes. Mais je pense que ce fait était important en soi-même. Et la discussion avec ces personnes a été ouverte. Donc on voit qu'il s'agissait d'un esprit de collaboration, de développement conjoint. Merci Nigel, dit Olivier. La question suivante nous vient de Evan Libovitch. C'est un autre de nos orateurs. Au début de la conférence, l'ITU a partagé le fait qu'il prenait des décisions par consensus. Et lors de la conférence, ces deux engagements... aucun de ces deux engagements n'a été respecté. Donc, est-ce que l'UIT devrait le modifier ou devrait-il le définir pour qu'il n'y ait pas de conflit? L'UIT en soi-même devrait peut-être le modifier. Est-ce qu'on a des commentaires? C'est Bill qui prend la parole. Je dirais oui. Et je dirais qu'il y a eu des stratégies rhétoriques. Et il disait que tout allait être décidé par consensus, que l'Internet n'allait pas être décidé, discuté. Et ce n'était pas... On ne se sentait pas à l'aise en discutant cela. Ce n'était pas simple. Le secrétaire disait qu'il ne parlait pas... d'Internet, qu'il n'allait pas parler d'Internet, que tout le monde avait été d'accord là-dessus. Et si l'Internet est compréhensif et impacte sur tout, bien sûr, ça allait devoir être inclus. Et les gens le lui ont dit avec le temps. Et je dirais qu'en définitive, l'UIT n'est pas aussi important qu'on ne croit dans plusieurs aspects. On a fait croire cela, mais même avec la délégation des États-Unis, je crois que les gens ont clairement dit que l'UIT a d'autres fonctions et qu'ils ne veulent pas diviser les participants. Donc je ne pense pas qu'il y ait des problèmes là-dessus, de défondement. On parle de ces cercles de défondement, vous disiez, je ne pense pas que ce soit le cas. Et pour les leaders, ils ont beaucoup travaillé sur ces questions, donc j'espère que leur conclusion sera une réussite. Et les gens parlent du fait qu'ils avaient ces fonds, que l'accord allait être fait, qu'ils allaient travailler dessus. Et puis, 57 pays ont signé cet accord. C'est beaucoup de pays, 57. Particulièrement pour certains conseils. Il ne s'agissait pas de fonds de l'UIT, mais de collaboration. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème pour l'organisation. il va y avoir beaucoup de pays qui continuent de se servir de cet accord dans leur ordre du jour. Et c'est ce qu'on va voir en mai, en fait. Là, en Chine aussi, bien sûr, ils vont tous venir participer, ils vont faire des propositions pour élargir l'influence de l'UIT pour consolider leurs fonctions. Donc ce sera une discussion à maintenir, mais la crédibilité de ces pays, c'est modifié bien sûr. Merci Bill. Certains pays ont bien dit que ça n'allait pas être modifié. Andrés Piesa et Nigel Hickson.
Et merci Olivier. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Bill et je voudrais ajouter une série de points ici. Et concernant l'IUT, je ne dirais pas qu'ils sont dans une position plus solide qu'auparavant, mais je ne dirais pas non plus qu'ils sont dans une position plus faible. Comme beaucoup l'ont dit, la CMTI et Evan Leibovitz, je lui ai dit, parce que finalement en 1998, ce traité a été signé par 20 et quelques pays, et maintenant il y a 89 pays qui ont signé ce traité. Donc finalement, et au niveau de l'UIT, il y a davantage de monde engagé, il y a davantage de consensus, et concernant les discussions, on continue à parler de la conférence sur Internet, bien sûr. Mais il y a aussi eu un accord sur le fait que l'UIT ne devait pas diriger tout ce qui concerne les ressources Internet. Et que ICANN plus une autre organisation devait le faire. Et aussi, en ce qui concerne, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Il y a eu un affrontement entre certains pour que l'IUT devienne plus globale et inclue l'Internet, mais les discussions se sont améliorées à un certain point. Et par rapport à l'année dernière, la discussion est beaucoup plus, est dans une meilleure position. Et donc, je pense que tout le monde comprend que l'UIT a une portée et que Internet a une autre portée et qu'on avance, on est dans la bonne direction et qu'on fait bien de faire ce qu'on fait. Bien sûr, l'UIT pousse et va continuer à pousser et il n'accepte pas le manque de légitimité qu'ils ont, mais en même temps, il y a une perspective intéressante concernant les accords auxquels on est parvenu lors de cette conférence. On a dit qu'on ne pouvait pas parler de l'Internet. Et on a parlé de l'Internet, on a parlé des solutions concernant l'Internet. Donc, il a été dit, d'accord, on aurait aimé qu'on parle plus clairement de l'Internet. Mais il faut savoir qu'il y a des pays qui veulent réglementer l'Internet et il y a donc des pays qui ne sont pas d'accord avec les autres. Voilà, donc ça serait ma réponse à ce qu'a dit Evan. Merci beaucoup, Andrés, dit Olivier Crépin-Leblanc. Nous sommes un petit peu au bout de notre réunion. Je pense que 2 heures auraient été plus adéquat et qu'une heure et demie pour ce type de sujet. Il y a d'autres questions. Nous avons une question de Johnny. Le sommet mondial sur la société de l'information qui aura lieu à Paris en 2013, est-ce que ICANN sera représenté dans ce sommet? Et donc, c'est 10 ans sont passés depuis le premier sommet et on a quelqu'un d'autre à ajouter sur le chat. Et Nigel, vous avez la parole, oui, bien sûr. Je pense que Avril a dit tout à l'heure. Et le sommet mondial sur la société de l'information a un rôle important à jouer dans ce sens. Cela fait 10 ans donc qu'a eu lieu la dernière. Donc, il faudrait voir ce que beaucoup de gens ici. Quels seront les accords qui pourront être accomplis au cours. Et si on regarde la dernière réunion qui a eu lieu à Tunis, qui légitimait les différents acteurs d'ICANN, c'était une des premières conférences qui revoyait un petit peu tous ces aspects. Elle avait été organisée par l'UNESCO. Et elle sera de nouveau organisée par l'UNESCO. Donc je pense que c'est très intéressant et nous avons... L'UNESCO a envoyé les invitations, nous sommes invités à participer, ICANN va participer à cette réunion, nous allons organiser des ateliers auxquels, et avec l'ISOC et avec d'autres organisations. Il est clair que ce n'est pas ICANN, tout le monde doit participer à ces réunions, mais c'est très important. Parce que ça aura lieu au mois de février, ensuite au mois de mai à Genève, et c'est une réunion très importante. Et ensuite en 2014, lors de l'autre réunion de l'UG. Donc il y a beaucoup de choses ici qui sont en jeu. Merci beaucoup Nigel, dit Olivier. Nous n'avons plus le temps, nous sommes au bout, nous sommes au bout de notre réunion. Il nous restait un point à aborder, les opportunités, les défis. Je voudrais demander à Nigel de dire quelques mots concernant les défis, les opportunités d'ICANN, s'il veut, pour conclure cette réunion. Nigel prend la parole, oui. Je pense que il y a beaucoup de défis. Et que quelqu'un doit relever, nous devons faire un meilleur travail, nous devons entrer davantage dans le problème, nous devons expliquer aux gens de quoi il s'agit, nous devons dire aux gens qu'il existe un monopole naturel, qu'il ne faut pas se défendre contre ça, que quelqu'un doit organiser le système de non-nomène au niveau mondial et que nous croyons vraiment dans le travail réalisé par la communauté d'ICANN, que c'est du bon travail. Nous devons expliquer cela, nous devons nous assurer que le monde développé, les communautés, tout le monde peut participer au processus de prise de décision et d'élaboration de politiques et nous assurer que tout le monde, que toutes les parties de la communauté pourront participer à cela. Donc nous avons un défi dans ce domaine-là. Au niveau des opportunités, je dirais que il faut faire participer tout le monde. Si tout le monde veut participer à ce processus, à ce moment-là, ce processus permettra à tout le monde de donner son avis et ce sera un processus beaucoup plus transparent. Merci Nigel. J'allais justement parler et prendre la parole au nom d'Atlarge spécifiquement parce que nous sommes la partie d'ICANN qui a le plus de structures. Nous avons un grand nombre de structures dans Atlarge au niveau mondial. Donc nous avons eu une certaine influence de ces structures d'Atlarge au cours de cette réunion de CMTI. Plusieurs membres de nos membres d'Atlarge étaient dans des délégations. Lors de cette réunion du CMTI, nous avons travaillé avec nos gouvernements, nous avons soutenu les opinions de nos gouvernements, nous travaillons au niveau local et nous pensons qu'il y a beaucoup de travail à réaliser pour être sûr et que nous allons tenir compte davantage des opinions des différents pays et fonctionner davantage selon un modèle multipartite prenante. Hein. Les gouvernements ont considéré cette réunion et la réunion de l'UIT comme une réunion positive qui a permis au gouvernement de participer. On n'a pas vraiment compris complètement ce concept de modèle multipartie prenante, bien que ICANN soit très ouvert, comme nous le savons tous. ICANN reçoit tout le temps des nouveaux membres, mais des fois, nous avons un petit peu tendance à nous refermer, à ne pas regarder suffisamment vers l'extérieur. Donc, en ce qui concerne la sensibilisation, il y a beaucoup de travail et que notre communauté d'être large doit réaliser. Il faut sortir, parler avec le monde de l'extérieur, faire participer davantage les gens, les gouvernements, les organisations pour vraiment avoir ce modèle de multipartie prenante. Et cela va. Il faut aussi faciliter le travail des organisations et des gouvernements pour qu'elles participent plus facilement. Et comme nous le savons, la communauté d'ICANN a une série d'acronymes difficiles à mémoriser qui ne rendent pas les choses faciles pour les personnes qui entrent dans notre organisation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à réaliser dans ce domaine, un travail qu'il faut faire. Et j'espère vraiment qu'on aura un soutien au niveau d'ICANN et pour que AtLarge puisse participer davantage dans ce domaine. Moi, j'ai le plan de rédiger une révision sur ce qui s'est passé, un texte de révision sur ce qui s'est passé, proposer des recommandations que notre communauté va soutenir. Nous allons aussi présenter une déclaration au directoire avec certaines recommandations de ce qui doit être fait maintenant, comment on peut le faire, comment est-ce que ce modèle multipartie prenante peut être plus acceptable pour certains pays qui actuellement ne le comprennent pas et qui n'ont pas la capacité de participer à notre travail. Donc il faut ouvrir la porte et sortir de notre organisation, aller voir les gens et les faire venir dans notre organisation. C'est quelque chose de très important. Donc, je vois que beaucoup sont d'accord avec nous. Il nous faut des structures au niveau national. Je pense que c'est un défi. Mais au niveau de la structure à large, nous savons, et je le sais, et aussi que nous pouvons faire du bon travail dans ce domaine. Il y a eu vraiment déjà des bonnes choses qui ont été faites. Et ce n'est pas quelque chose d'impossible. Quelqu'un veut prendre la parole pour conclure maintenant? André? André prend la parole. Je dirais que... D'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de prendre la parole ici. Et de prendre la parole dans le cadre de cette réunion. Et je voulais aussi dire que la CNIC, et pas seulement moi, la CNIC et la communauté de l'ICANN et la communauté d'AtLarge doivent vraiment soutenir le travail dans ce domaine. Avery, vous êtes toujours là? Est-ce que vous pouvez prendre la parole et conclure ici? Heidi dit qu'elle a quitté la réunion. Bien, Avery, si vous êtes toujours en ligne, est-ce que vous pouvez nous entendre? Bill Drake, je voudrais répondre à une question qui a été posée sur mes commentaires. Si on regarde les programmes pour cette conférence de SMSI, la situation se trouve dans une situation de contemplation collective, de dialogue multipartite, le statut et de l'influence de la société sur le monde, de cette société d'information sur le monde. Donc, je pense que ça peut être quelque chose dans le genre de l'IGF. On va aborder différents thèmes. Il y aura des négociations collectives pour essayer de parvenir à une meilleure organisation, quelque chose de plus clair. On n'entend pas beaucoup de représentants des gouvernements qui nous parlent de ces réunions. Ce n'est pas un endroit dans lequel les choses peuvent ne pas aller correctement, finalement. L'évolution sera en général collective, donc je pense qu'on avance. Je pense qu'on avance de manière positive. Il s'agit d'une approche plus large que le programme originel qui avait été rédigé d'abord. Et il y a beaucoup de points qui vont être abordés. Il va y avoir des sessions plénières sur des points importants. On va pas se focaliser seulement sur quelques questions. Merci beaucoup, Bill. Finalement, Nigel, vous avez la parole. Je dois vous remercier. Je veux d'abord vous remercier, remercier à tous ceux qui ont participé, organisé cette réunion. C'est un plaisir d'avoir la possibilité de participer à ces webinaires. Et que toute la communauté Internet y participe. Et la communauté d'ICANN. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et Olivier reprend la parole. Merci beaucoup, Nigel. Donc, je remercie maintenant tout le monde qui a participé à cet appel. C'était très intéressant. L'enregistrement de cette conférence sera à votre disposition, ainsi que la transcription. Donc, si vous venez de l'extérieur, regardez la page sur laquelle vous trouverez le programme. Et bonsoir, bonjour et bonne journée à tous, chacun dans votre pays.
You have 1 minute remaining.
Je crois que notre appel est terminé. Merci. Merci, au revoir.